Il s'agit d'un attel, un objet que je porte toujours sur moi et puis qui est un outil indispensable, bien que c'est bien banal pour tout le monde, mais c'est aussi un outil de travail pour moi.
Vous l'utilisez par exemple dans quelles conditions ?
Alors, dans les conditions de déplacement, au travail, pour garder mes mails, pour répondre aux appels.
Alors, vous m'avez dit un truc intéressant avant, c'est que voilà, vous travaillez dans l'informatique, mais vous allez très rarement sur Internet en dehors du travail.
Alors oui, c'est vrai parce que...
Pas très geek ça. Hein?
C'est vrai que ouais, je ne m'oriente pas vers la notion de geek pour soi-même, mais c'est vrai qu'au travail, je touche pas mal ce domaine et puis j'essaie de peut-être me diversifier vers d'autres activités en mon temps libre.
Bon, peut-être que quand on fait ça, on surfe toute la journée sur Internet, peut-être qu'on a envie de faire un autre sort de surf également en soirée, allez savoir, hein, c'est ça aussi.
Bien que j'utilise aussi, par rapport à la personne normale, à mon avis, j'utilise quand même pas mal pour des livres électroniques, pour des réservations de billets d'avion, pour ce genre de choses. Mm-hmm.
Dimitri Slentiev, vous êtes russe et puis vous travaillez dans l'informatique comme architecte logiciel. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, ce métier, il s'agit d'un métier informatique qui consiste à conception de logiciels. Donc, on a l'habitude de dire que voilà, on fait la programmation de logiciels et ça marche en soi. Mais c'est vrai qu'il y a encore le travail de penser avant de son architecture. On peut faire un parallèle avec la construction de maison. On pose pas juste les briques comme ça spontanément. On suit certaines nomenclatures, certaines notions de faire des choses et c'est en ça que ça consiste mon métier.
Et puis, est-ce que, comme dans la construction, il y a des plans qui sont déjà prédéfinis, des maisons qu'on fait à des milliers d'exemplaires ? Est-ce qu'il y a des logiciels qu'on fait à des milliers d'exemplaires ?
Alors, tout à fait. Il y a un certain nombre de bonnes pratiques à suivre. Il y a des livres blancs, comme on appelle. Oui, effectivement, il y a un certain nombre de bonnes pratiques à suivre. Et puis, c'est vraiment important de s'appuyer là-dessus pour ne pas répéter des erreurs, donc.
Et vous connaissez les hackers sans doute, vous avez eu affaire à eux ?
Alors, il y a deux notions d'hackers, en fait, selon moi, c'est les, comment on dit, black hat et puis white hat. Donc, ceux qui font
magie
du bien...
Magie blanche, magie noire.
Exactement. Donc, ce qui font du bien et ce qui font du mal. Moi, en fait, personnellement, je connais ni des uns ni des autres personnellement. Mais par contre, je m'intéresse à ce domaine. Domaine sécuritaire, c'est vaste, en fait. Et puis, c'est surtout important avec cette grandeur, en fait, de flux d'achat sur Internet. On s'inquiète tous en fait pour notre porte-monnaie, pour que ce soit volé, etc. Et puis justement, c'est un des rôles d'architecte logiciel de tout bien prévoir au niveau de sécurité aussi.
Mais justement, les hackers en Russie, il y en a quand même pas mal. Hein.
On a aussi ce stéréotype en fait que dans le pays de l'Est, il y a pas mal du monde qui s'intéresse à ce domaine. Et puis statistiquement, c'est vrai. Et puis je confirme que par exemple, lors de mes études, il y a eu quelques échanges avec des amis au propos du domaine sécuritaire, mais comme dit, on sortait jamais en fait du contexte white hat, donc c'est purement informatif et purement dans le but d'assurer la chose et pas briser les choses des autres.
D'accord, donc on retiendra que vous n'êtes pas un hacker, Dimitri Slentiev. Vous êtes arrivé en 2007 dans le Jura, en Suisse, sans savoir le français. Est-ce que ça a été dur pour vous déjà de vous intégrer puis d'apprendre à maîtriser la langue ?
Alors, on peut aborder cette question de deux axes. Premièrement, effectivement, il s'agit d'un certain effort que chaque personne voulant s'intégrer bien dans cet environnement doit faire des efforts. Mais deuxièmement, en fait, grâce à l'appui sur certaines personnes et sur certaines possibilités en fait qui sont offertes en Suisse pour des ressortissants d'autres pays, on peut vraiment bien s'intégrer.
La Suisse est une belle terre d'accueil.
Ah oui, tout à fait, alors je confirme.
Parce que le français et le russe, il n'y a quand même pas beaucoup de points communs, je crois.
Alors vous serez étonné, mais il y a beaucoup de similitudes. Alors selon moi, peut-être pas.
Par exemple.
Selon la population suisse, il y a pas mal d'humour, en fait, comme trottoir, capuchon, etc., qui sont vraiment communs.
Moi, je pense que c'est plus facile pour le russe d'apprendre le français que pour nous autres d'apprendre le russe.
C'est vrai que j'ai eu déjà des notions de l'anglais, en fait. J'exerçais bien l'anglais. Mm-hmm. Et puis, au niveau d'alphabet, par exemple, c'était déjà un bon appui. Alors que, par exemple, pour quelqu'un en fait roman qui est en train d'apprendre le russe, c'est vrai que comme apprendre le chinois, donc il n'y a pas beaucoup de différence.
Vous parlez de des mots qui sont assez similaires en français et en russe. Vous avez parlé des mots en français. Comment est-ce qu'on les dit en russe?
Bah alors, c'est des mêmes mots, justement, parce que historiquement,
trottoir, c'est trottoir.
Trottoir.
Ah,
je sais que le français était très parlé à la cour de Russie tout à l'époque. Hein,
ouais, donc exactement. Donc
il reste encore. Hein.
Il y a quelques siècles, en fait, toute la bourgeoisie, en fait, elle parlait le français. Mm-hmm, et c'est pour ça que tous les mots comme ce que je viens de mentionner, bistrot et bien d'autres, ils sont restés.
Bistrot hein, aussi.
Ouais, exactement. Ouais.
Dimitri Slentiev, vous nous accompagnez jusqu'à 8h. Vous êtes architecte logiciel, on le rappelle, et puis vous êtes russe aussi. Les Jeux Olympiques d'hiver, ça commence demain en Russie. On va en parler avec vous dans quelques instants.
La matinale RFJ, l'invité pas pressé.
On parle des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi. Ils commencent demain à Sochi en Russie.
Et puis notre invité est russe, lui aussi, Dimitri Slentiev. Est-ce que vous vous réjouissez de ces Jeux Olympiques?
Alors, je pense que, comme toute population russe, en fait, je me réjouis de voir ces jeux, courtement dit. Ouais.
Une discipline en particulier
J'ai pas de préférence pour des disciplines. Plutôt, en fait, dans mon temps libre, je consulterai en fait ce qui se passerait en ce moment. À mon avis, ça va être comme ça, sporadique.
Alors, on a évoqué dans les insolites, notamment hein, dans les news ces dernières semaines, l'organisation de ces jeux, comme quoi certaines choses pouvaient laisser à désirer. Vous en savez quelque chose vous-même?
Alors, effectivement, j'ai pris connaissance de quelques nouveautés à ce sujet, mais je pense que, comme dans tous les grands projets, et puis ça, je peux aussi parler de l'expérience architecte logicielle, on peut trouver tant des défauts que des bonnes choses. Et puis à cette grandeur-là, si par exemple il y a des finitions encore à terminer, moi je plutôt en fait dans l'optique de regarder sur les bons 90% que les mauvais 10. Voilà.
Ça vous fait rire les anecdotes et les images qu'on peut voir sur Twitter de ces journalistes qui découvrent des toilettes à double ou bien des problèmes d'eau potable, on va dire.
Donc, si j'entends, on se focalise plutôt sur la grandeur et puis la rareté en fait de cet événement. C'est plutôt en fait sur ça qu'il faut attirer l'attention et pas des petits détails de finition, selon moi.
Et puis, c'est pas non plus sur la politique russe qui est aussi très critiquée. Hein. On a parlé, faut-il boycotter, faut-il pas boycotter. En tout cas, vous ne boycottez pas, c'est sûr. Hein.
Tout à fait. Comme je pense que toute la population russe me rejoint à cet effet. Quoi.
Il y a un véritable engouement dans votre famille russe ou en Russie, de manière générale, pour ces Jeux Olympiques?
Alors oui, toute ma famille les suit. Et puis, pour vous dire, par exemple, le feu olympique, en fait, il est traversé parmi toutes les villes. Et puis, toute ma famille en fait sortie sur les rues de ma ville natale en fait pour l'accueillir. Donc il y a vraiment une grande réjouissance en fait à l'arrivée de ces Jeux Olympiques pour toute la population, je pense.
Alors on a critiqué encore hein, les infrastructures aussi de Sochi. Bon, en revanche le village olympique, on a vu, est très très bien construit. Est-ce qu'il y a un point particulier qui pourrait vous déplaire à vous-même?
Concernant l'infrastructure, donc.
Oui.
À mon avis, non, parce que grâce à ces objets, grâce à ces installations, à mon avis, toute l'infrastructure a profité. Et puis, je me suis même renseigné. Et puis, la dernière révision de cette infrastructure a été faite en 1970. Et puis,
bien renseigné. Hein.
Exactement. Donc, je pense que c'était. On est tous gagnants en fait dans cette affaire.
Poutine aussi, hein, doit être bien gagnant hein, dans cette affaire. Hein.
Effectivement, son image est super haut en fait grâce à cet événement, je pense.
C'est le jackpot pour la Russie ces Jeux.
On verra au final, mais je pense que c'est un très bon début et puis c'est très crédible en fait pour la Russie que la Russie en fait a le pouvoir de tenir ce genre de manifestation et de le tenir à super haut niveau.
Vous pensez que les Pussy Riot pourraient faire une chanson pour l'occasion?
Alors selon moi en fait Pussy Riot, ils sont maintenant aux États-Unis, d'après ce que je sais, donc je ne sais pas, est-ce qu'ils auront le temps de se déplacer.
Est-ce que justement, on regarde aussi la situation économique, je crois qu'en 2007 c'était pas terrible en Russie, ces jeux, ils amènent quelque chose?
Bien sûr qu'ils ouvrent en fait de nouveaux postes de travail, ils ouvrent cette infrastructure en fait, il y a tout le monde qui va en profiter, ça crée bien sûr des postes de travail, puis des possibilités économiques, puis d'innovation.
Bon, est-ce que vous pensez qu'il va en rester quelque chose au final après, parce qu'il y a les Jeux qui commencent demain pour la Russie, et pour la Russie une fois ou la région de Sotchi, une fois que ces Jeux seront terminés, Est-ce qu'on va tout remballer, laisser les infrastructures, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va en rester ?
Il y a tout qui va rester selon moi. Parce que même, en fait, comme c'était planifié, selon ce que je sais, c'était même planifié en fait, d'installer toutes ces infrastructures, quitte à ce que Russie soit choisie comme le lieu des Jeux Olympiques ou pas. Ça, c'était la version, en tout cas, que je connais.
Est-ce que les Russes vont suivre ces JO ?
Tout à fait. C'est, à mon avis, c'est l'événement splendide. C'est l'événement qui était beaucoup attendu en Russie. C'était, ouais, c'est, à mon avis, c'est juste excellent.
Attendu à quel point, justement ? C'est parce que finalement, il y a pendant des années, on construit ce site des Jeux Olympiques où on en parle. Qu'est-ce qui fait qu'on les attend tellement en Russie ?
Alors, toutes les notions d'attente, en fait, ont remonté en deux dernières années, je crois. Avant, c'est vrai que c'était juste provisoire. Mais on se focalisait trop, en fait. Enfin, la Russie a bien survécu certaines périodes difficiles. Et puis, on a bien besoin, en fait, d'une diversité, si vous voulez. Donc, c'est l'occasion, en fait, de démontrer que justement, la Russie est capable de s'approcher à ce genre de projet.
Et puis, vous avez, pour finir, un petit pronostic des médailles russes au JO ?
De l'administration russe n'a pas de pronostic, c'est la participation en monnaie qui compte, quitte à ce qu'on nous ramène en fait à 5e ou 3e place, on serait tous contents de toute façon.